Bien, bonjour à tous. Je remercie également les organisateurs de ces journées pour le sujet passionnant et qui rassemble en fait beaucoup de gens de cette communauté. Donc, avec Léa, nous voulions aborder dans le cadre de ce colloque l'intérêt des référentiels pour la reconstitution des pratiques alimentaires humaines anciennes. Alors, à partir de l'outil isotopique et ainsi que les contraintes auxquelles nous sommes régulièrement confrontés. Alors avant d'en venir au propos de cette communication, je souhaiterais en quelques mots aborder la finalité de nos études qui se place dans le champ de l'anthropologie de l'alimentation. Alors la paléoalimentation se structure au sein d'un système qui est complexe, hein, où s'intriquent de nombreux facteurs, donc je les ai schématisés ici à gauche, hein, et dont la somme définit les cultures et les sociétés que nous étudions. Alors à l'instar des anthropologues, des sociologues qui étudient les sociétés modernes. Nos questionnements sont également pluriels. Alors, on essaye de savoir quelle est la nature de cette alimentation. S'agit-il d'une alimentation qui est singulière? Est-ce qu'elle est partagée entre les individus d'un même groupe? Est-ce qu'il est possible de mettre en évidence sa persistance dans le temps? Est-ce qu'il y a une transmission de génération en génération? Et dans certains cas, est-ce qu'on peut parler de géographie alimentaire? Alors, la finalité de nos études est de cerner les modalités de ces processus et par l'identification des différents facteurs qui peuvent être impliqués. Alors pour répondre à ces questions, le recours finalement aux marqueurs isotopiques se révèle très pertinent car ils permettent d'identifier les relations entre les ressources alimentaires et les consommateurs. Alors ainsi, à l'échelle d'un groupe, ils permettent, dans un cadre idéal, et nous y reviendrons, d'apprécier le rapport des humains avec leur environnement direct et s'il y a une consommation préférentielle de l'une ou l'autre des ressources. Alors, à l'échelle individuelle, ils permettent d'identifier le facteur biologique ou social, expliquant la distribution interindividuelle des signatures isotopiques. Alors, notre propos aujourd'hui, nous avons décidé de le centrer sur la première échelle d'analyse et qui repose donc sur la distribution des ressources alimentaires dans les écosystèmes et conséquemment les transferts isotopiques dans ces chaînes alimentaires. Alors, ces questions ont été au cœur des premiers travaux dans ce domaine et l'histoire récente de cette discipline nous permet en fait de vous proposer une historiographie alors rapide hein, des points forts des découvertes qui ont jalonné le développement de ces marqueurs jusqu'à une utilisation aujourd'hui en routine dans les laboratoires d'archéologie. Alors, je précise que notre propos concerne deux éléments les plus couramment utilisés qui sont le carbone et l'azote. On les appelle maintenant même des marqueurs traditionnels. Alors, ils sont dosés sur la fraction organique des os. Alors, ils rendent compte uniquement de la part protéinique de l'alimentation et des dernières années de la vie des sujets. Alors, nous avons retenu quatre temps forts dans cette historiographie. Alors, le premier, entre les années 50 et 70, alors, il correspond aux premiers travaux sur la variabilité isotopique des plantes et qui ont montré des valeurs isotopiques distinctes des végétaux liées à la photosynthèse, offrant ainsi l'opportunité de documenter l'histoire des plantes alimentaires de type C4, alors dans l'histoire alimentaire humaine, notamment le maïs ou le millet plus récemment. Alors, ce qui nous amène au deuxième temps fort, avec la première application archéologique avec des sujets humains en 1977, et cette étude cherche à comprendre l'évolution de la consommation du maïs dans les sociétés préhistoriques du Nouveau Monde. Le troisième temps fort intervient avec les années 80 et il voit alors la consolidation des modèles de variation isotopique, donc carbone et de l'azote, au sein des écosystèmes, avec la mise en évidence dans plusieurs environnements des relations entre les différents acteurs d'une chaîne alimentaire. Alors, ces résultats majeurs reposent sur l'analyse de spécimens actuels et ils ont permis notamment de comprendre les fractionnements isotopiques entre deux maillons successifs d'une chaîne alimentaire. Alors, à l'issue de cette période, un modèle global de distribution isotopique des ressources alimentaires est proposé, alors, comme il est présenté ici à l'écran. Et dès cette époque, plusieurs études vont démontrer des variations locales de cette distribution qui sont liées aux conditions environnementales et la nécessité d'une faune locale propre à chaque population humaine dont on veut reconstruire l'alimentation. Et c'est notamment la conclusion d'un papier de Judith Sealy publié en 1997, qui évoque notamment ce point primordial. Alors enfin, le quatrième point fort, c'est entre les années 90 et 2000. Alors, cette période marque le début d'une explosion de l'application en routine de l'outil isotopique en bioarchéologie, avec la production, alors pas systématique mais régulière, de référentiels locaux et contemporains des populations étudiées. Alors, l'objectif visé étant d'estimer ici, donc par comparaison entre les valeurs isotopiques humaines et celles du référentiel, la contribution préférentielle de l'une ou l'autre de ces ressources. Alors, toutefois, on ne peut que constater que l'utilisation d'un référentiel archéologique est loin d'être stigmatisée. Alors, comme le montre le cas de la Méditerranée antique et médiévale, alors pour laquelle on dénombre une centaine de publications en 35 ans. Il y a un cinquième de ces publications qui sont publiées ces deux dernières années. Alors, sur ces 100 publications, seuls 45% des études sont reportées ici sur la carte présente des données de faune. Et encore, pour celle-ci, pour la Grèce notamment, une seule donnée de chèvre est disponible par région. Et si l'on retient les études avec plus de 3 mammifères, on tombe là à une trentaine de papiers qui répondent à des critères corrects pour une interprétation valide des données isotopiques humaines. Alors, toutefois, on note quand même un progrès significatif depuis ces 5 dernières années. Les données restent toutefois géographiquement très disparates et posent ainsi la première question de l'échelle à laquelle doit être mis en place ces référentiels archéologiques. Alors, la plupart des études proposent un référentiel à l'échelle régionale, alors comme c'est le cas ici de notre premier exemple. Alors, il s'agit d'une étude menée dans le sud-ouest de la France, au néolithique moyen. Alors, les sites impliqués ici, vous voyez, ils sont distants de moins de 100 km. Ils ont livré chacune des vestiges humains dans ces deux zones géographiques, donc ici mentionnées. Et pour ces deux régions, on a pu établir un référentiel des ressources animales domestiques. Alors, vous voyez ici sur le graphe que les valeurs domestiques de ces deux référentiels présentent des différences qui sont constantes entre les deux régions, donc ici avec les figurés pleins et les figurés vides, et qui se répercutent jusqu'au sujet humain. Alors ici, ça démontre l'impact de l'environnement sur les valeurs isotopiques de l'ensemble de la chaîne alimentaire, des acteurs de la chaîne alimentaire, et un approvisionnement local des humains dans leurs régions respectives. Alors, dans ce deuxième exemple ici, le référentiel des ressources domestiques a été mis en place à l'échelle de sites. Alors, ces sites ici sont tous localisés dans la région provençale. Ils sont datés du début du Moyen-Âge. Alors, ces sites se trouvent dans des environnements qui sont contrastés et ils sont illustrés ici par chacun des graphes. Alors, le premier ici, il s'agit d'un contexte insulaire avec le site de l'Airain. C'est un contexte côtier avec une série de Marseille. Une série de plaines avec des sites à Aix-en-Provence et puis des sites des données en contexte d'altitude avec le site de Digne-les-Bains. Alors, comme vous pouvez le voir ici, les ressources, elles présentent une distribution isotopique qui est propre à chacun des sites. À Digne et à Aix, vous voyez ici que les omnivores en violet et les herbivores en vert forment des clusters isotopiques qui sont distincts, mais à l'Airain et Marseille, on voit en revanche que les ressources se superposent largement. Alors, ce résultat a des conséquences importantes pour l'interprétation des valeurs humaines de chacun des sites. Alors, comme vous le voyez ici sur les graphes, alors les humains ils sont représentés par les ronds noirs. Ils sont comparés ici à la projection des valeurs théoriques attendues pour les consommateurs de chacune de ces ressources. Alors, on note ici à l'Airain et à Marseille l'impossibilité de distinguer réellement la préférence de l'une ou l'autre des ressources, tandis qu'à Aix, les sujets se distribuent plutôt pour une. Enfin, on leur attribue une consommation plus importante de ressources de viande de cochon. Et à Digne-les-Bains, on voit une distribution des sujets selon les deux ressources. Alors, ces deux exemples ici confirment l'intérêt de disposer de référentiels géographiquement et chronologiquement proches des populations inhumées. Mais en certains cas, comment faire quand il est difficile ou voire impossible de les mettre en place? Alors, c'est notamment le troisième exemple de cette communication. Je vous emmène dans le Pacifique, où dans cette région insulaire, la préservation alors quantitative et qualitative des vestiges archéobiologiques est difficile, voire inexistante. Dans ce cas, l'alternative est le recours à des référentiels modernes. Et alors, dans ce contexte particulier de la colonisation insulaire, les problématiques anthropologiques alimentaires résident en fait dans l'estimation de la dépendance plus ou moins importante des sujets humains face aux ressources marines. Alors, le référentiel moderne ici, en appui des données archéologiques qui sont fragmentaires, permet de mettre en évidence une distribution alimentaire en trois pôles visibles. Ici, vous voyez, après une réduction statistique des données, en trois pôles, donc les ressources terrestres, les ressources marines de grand large et puis les ressources côtières. Alors, les données humaines interprétées dans le cadre de ce référentiel permettent de démontrer, comme vous pouvez le voir, les grandes modifications des pratiques alimentaires au cours du temps et en rapport avec la colonisation des différents archipels. Alors ainsi, les premiers arrivant sur une île, donc les colons, vous trouvez ici dans le groupe A, alors qu'ils viennent du Vanuatu, ici en vert, ou des Tonga, ici en bleu, montrent une alimentation qui est centrée majoritairement sur des ressources marines, avec ici des ressources de large, et ici plutôt des ressources de bord de mer, tandis que les générations suivantes, donc illustrées ici par le groupe B, sont caractérisées par une consommation qu'on dirait mixte, partagée entre des ressources marines et terrestres. Et puis ici, les sujets les plus récents, pour lesquels une alimentation exclusivement centrée sur des ressources terrestres est proposée. Alors enfin, dans un dernier exemple, nous souhaitons aborder la question de l'existence même d'un bon référentiel archéologique pour une analyse isotopique. Est-ce finalement possible? Alors cet exemple ici traite d'une étude réalisée en collaboration avec l'INRAP sur le site de Missignac. Alors c'est un site rural médiéval qui se situe dans le Gard. Alors les ressources alimentaires ont été caractérisées à partir d'échantillons qui viennent de l'aire d'habitat donc qui est associée à la nécropole. Alors elles comprennent, comme vous pouvez le voir ici, autant de taxons domestiques que sauvages, donc, qui ont été identifiés au cours de l'étude archéozoologique. Et au total, ce référentiel se monte à 64 spécimens et permet de documenter 11 taxons, ce qui en fait, pour les ressources animales, l'un des meilleurs référentiels isotopiques pour cette période en Méditerranée. Alors, l'analyse isotopique de ce référentiel met en évidence une répartition qui est attendue en fonction des environnements, comme vous pouvez le voir ici avec ces ellipses et ces trois types de ressources. Alors, toutefois, pour ce qui est du milieu terrestre, comme vous pouvez le voir, il est difficile d'identifier isotopiquement des clusters qui sont liés aux différentes espèces, et notamment les différents membres de la triade domestique. Vous voyez ici, ils semblent complètement indiscernables. Alors, si on projette maintenant les valeurs humaines, donc qui sont ici les ronds blancs dans ce référentiel, il révèle une alimentation qui est majoritairement terrestre, alors malgré la localisation du site à proximité de la mer à cette époque. Et de plus, ici, le recouvrement de ces valeurs humaines avec les valeurs isotopiques de la volaille permet d'écarter un apport significatif de cette ressource à leur alimentation. Néanmoins, une fois qu'on a fait ces constats, le référentiel terrestre avec un tel recouvrement ici des valeurs isotopiques selon les espèces limite l'identification d'une consommation différentielle de ces différentes ressources. Alors, ce qui aurait été particulièrement intéressant, notamment pour permettre de comprendre cette large variabilité isotopique qu'on observe chez les humains. Alors, une analyse ici plus poussée du référentiel révèle toutefois des résultats intéressants en ce qui concerne l'approvisionnement des ressources alimentaires de cette population. Alors, en effet, on note une répartition en deux groupes des herbivores, donc constitués par les moutons et les vaches, alors les uns avec des valeurs plus basses qui témoignent d'une vie passé dans un environnement C3, tandis qu'ici, les autres, avec des valeurs plus élevées, témoignent d'une exploitation en milieu lagunaire. Alors, on voit aussi apparaître un cluster intermédiaire qui est propre aux cochons. Et en fait, ces trois clusters, maintenant, permettent de proposer un accès différentiel de ces ressources selon les individus. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur le graphe, avec une petite frange de la population qui aurait majoritairement consommé les animaux de ces milieux, dont l'exploitation est liée au milieu lagunaire, tandis que les deux autres groupes montrent des individus qui auraient consommé soit de la viande de cochon ou soit de la viande d'herbivore. Alors, cet exemple montre que les référentiels archéologiques établis avec une stratégie d'échantillonnage qui est rigoureuse peuvent déroger au cadre théorique que je vous avais présenté tout au début d'exposé. Mais en fait, une analyse, je vous l'ai montré, fine de ces distributions, alors on regarde évidemment des contextes, peut permettre de proposer quand même certaines hypothèses alimentaires. Alors, en conclusion, la présentation de ces quelques exemples qui sont issus, vous l'avez vu, de contextes environnementaux et chronoculturels variés, et en dépit des biais inévitables de représentation, illustre tout l'intérêt de la mise en place d'un référentiel local, car il est impossible de déterminer a priori la distribution relative des ressources alimentaires. Alors, dans le cadre d'un référentiel archéologique, il est indispensable de réaliser un échantillonnage le plus raisonné, intégrant à la fois un nombre significatif d'espèces, vous l'avez vu, mais également d'individus par espèce. Alors, dans certains cas, comme celui du Pacifique qu'on vous a montré, où la question anthropologique réside ici dans la distinction de grandes tendances alimentaires, le recours à un référentiel moderne peut s'envisager pour consolider le référentiel archéologique. Toutefois, il y a une autre limite sous-jacente à notre propos, mais éludée ici faute de temps, qui concerne les facteurs physiologiques qui sont impliqués dans l'enregistrement des signatures isotopiques. Donc, ce point a été évoqué par Marie ce matin. Alors, il concerne, dans le cadre de nos études, d'une part les référentiels des sources alimentaires, alors pour lesquelles des études actualistes, alors tant sur le registre végétal qu'animal, dans le cadre d'expériences contrôlées, s'avère vraiment capital, et concerne également la variabilité isotopique humaine. Alors, elle est abordée de façon ponctuelle dans le cadre d'études en contexte médical et épidémiologique. Et ici, ça peut nous permettre, là encore, d'affiner nos scénarios alimentaires. Alors, pour en finir, pour aujourd'hui, si le doux rêve archéologique demeure, alors notamment en raison, vous l'avez vu, de la disparité des pratiques autour de la mise en place des référentiels archéologiques et aussi de la difficulté de les mettre en œuvre, il reste quand même important de mentionner que d'autres marqueurs isotopiques, nous n'avons pas du tout eu le temps de vous exposer ici, comme le soufre, le calcium, le zinc, ou encore maintenant l'analyse des rapports isotopiques du carbone et de l'azote sur les acides aminés, peuvent nous aider à identifier des ressources alimentaires qui sont non disponibles dans nos référentiels. Et je vous remercie de votre attention.